Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dimanche dernier, avec la fête de la purification de la très sainte Vierge, nous avons clôturé solennellement le cycle liturgique de Noël. Aujourd'hui, nous entrons dans le cycle de Pâques. Nous commençons l'ascension de la grande montagne qui nous conduira au calvaire et au triomphe de la résurrection. Et quand on fait l'ascension d'une montagne, au début, c'est assez facile, c'est après que ça commence à monter. Voilà. Donc c'est une montée en deux temps que l'Église aussi va nous faire faire, une pente douce et une pente plus abrupte. La pente douce, c'est le temps de la septuagésime, la pente plus abrupte, l'ascension proprement dite, ce sera le temps du carême. La septuagésime a été supprimée dans la nouvelle messe de Paul VI. Les dimanches y sont appelés ordinaires et les ornements du prêtre sont verts. Et c'est une perte, car ce temps de la septuagésime, qui remonte au moins vers l'an 600, a été institué pour nous préparer à entrer en carême, pour nous aider à comprendre pourquoi nous devons faire pénitence. Si notre Seigneur est venu parmi nous à Noël, c'est pour réparer nos péchés sur la croix le vendredi saint. Alors maintenant, l'Église commence à tourner nos regards vers le calvaire et elle veut nous faire prendre conscience de la gravité du péché pour nous inciter à nous convertir et à faire pénitence. Le temps de la septuagésime dure 3 semaines. Ces mots de septuagésime aujourd'hui, sexagésime dimanche prochain, quinquagésime le dimanche suivant, ces mots désignent non pas le nombre de semaines qui nous séparent de Pâques, 7, 6, 5, c'est pas ça, mais la série de dizaines dans laquelle tombe chacun de ces dimanches avant la fête de Pâques. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la 7e dizaine ou décade. En signe de pénitence, les ornements du prêtre sont violets, le chant du Gloria est supprimé, sauf pour les fêtes des saints, l'Alléluia est remplacé par une mélodie traînante qui porte justement le nom de « trait ». Les textes de la messe d'aujourd'hui ont été composés en un temps où les barbares menaçaient la ville de Rome. L'introïte est un reflet de l'angoisse de ce temps. Les gémissements de la mort m'ont environné, les douleurs de l'enfer m'ont entouré. Mais en même temps, l'oraison de ce jour est une invitation à garder confiance dans le secours de Dieu. Dans votre clémence, exaucez, Seigneur, la prière de votre peuple, faites qu'affligés en toute justice pour nos péchés, nous soyons miséricordieusement délivrés pour la gloire de votre nom. L'idée générale de la messe d'aujourd'hui, c'est que seule la prière et la pénitence pourront conjurer toutes les menaces qui pèsent sur nous et qui sont la conséquence de nos péchés. C'est très actuel. Mais disons quelques mots de l'évangile de ce jour, la parabole des ouvriers envoyés à la vigne. D'après les pères de l'Église, cette parabole s'entend d'abord de l'appel des nations à la foi selon les diverses époques de l'histoire du monde. C'est le peuple juif qui a été appelé le premier, c'est même Dieu qui a formé ce peuple avec Abraham et ses descendants. La vocation du peuple juif était de préparer l'humanité à la venue du Sauveur du monde, notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur étant venu, a chargé ses apôtres d'annoncer la bonne nouvelle du salut au peuple du monde entier. « Allez évangéliser toutes les nations, ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. » Dans ce sens, le père de famille de la parabole, c'est notre Seigneur. Sa vigne, c'est l'Église. La place publique où il va chercher ses ouvriers, c'est le monde. Et les ouvriers qui sont appelés, ce sont tous les peuples. Monseigneur Gaume, au XIXe siècle, a écrit un petit livre où il prouve que le globe tout entier a été évangélisé par les apôtres eux-mêmes. Avec les siècles, Certains pays plus éloignés ont oublié cette première évangélisation et le démon en a repris possession. Alors l'Église a dû de nouveau envoyer des missionnaires. Mais cette parabole n'a pas été interprétée par la tradition uniquement comme l'appel des nations à la foi. Elle a aussi été entendue comme l'appel des âmes à la grâce selon les divers âges de la vie. Alors ici, la vigne, c'est notre âme. Une comparaison d'ailleurs qui est souvent reprise dans la Sainte Écriture. Nous devons cultiver avec soin la vigne de notre âme pour qu'elle produise de bons fruits, les fruits des bonnes œuvres. Les ouvriers, c'est nous. La place publique, c'est le péché sous toutes ses formes. L'indifférence religieuse, l'hérésie, les désordres de la chair, etc. C'est là où notre Seigneur vient chercher les âmes. Quant aux différentes heures auxquelles le divin maître appelle à le servir et l'aimer, ce sont les différents âges de la vie humaine. Le matin, c'est l'enfance. Il s'agit ici de ceux qui sont nés dans une famille chrétienne et qui ont reçu très tôt la grâce du baptême et une éducation religieuse. Eh bien, même eux, notre Seigneur a été les chercher dans le péché, puisque tous les hommes naissent avec le péché originel, privés de la grâce sanctifiante, donc séparés de Dieu. La troisième heure, c'est l'adolescence. La sixième, la jeunesse. La neuvième, l'âge mûr. La onzième, la vieillesse. Divers âges où les âmes qui jusque-là ne vivaient pas chrétiennement peuvent recevoir la grâce de la conversion, parce que notre Seigneur veut le salut de tous et il donne ses lumières à tous pour revenir à lui. Cette grâce de la conversion peut être celle d'un retour à la pratique pour ceux qui auraient été baptisés et auraient ensuite tout abandonné. Ce peut être aussi pour des fidèles qui auraient toujours pratiqué, mais dans l'Église conciliaire, la grâce de découvrir la tradition de l'Église et par là de passer plus facilement à une vie chrétienne fervente. Heureux ceux qui répondent à l'appel de notre Seigneur. Si vocem eius audi eritis, nolite obdurare corda vestra, dit le psaume. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'Église fait dire ce psaume à ses prêtres tous les jours au début des matines. Le Saint-Esprit fait cet avertissement car, comme dit notre Seigneur, il y a beaucoup d'appelés, mais hélas, il y a peu d'élus. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui restent indifférents à l'appel de notre Seigneur, à l'appel de la grâce, surtout aujourd'hui. Que tout ceci nous fasse réfléchir. À quelle heure, c'est-à-dire à quel âge, l'appel de la grâce s'est-il fait pour nous? Et est-ce que nous avons commencé aussitôt à cultiver la vigne de notre âme ou est-ce que nous l'avons laissée en friche durant de longues années? Et nous qui avons eu la grâce de connaître la tradition de l'Église, c'est une grâce, c'est pas à cause de nos mérites, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, c'est une grâce. Eh bien, nous maintenant qui avons à notre disposition tout le trésor de la doctrine catholique, nous qui avons la possibilité de nous approcher fréquemment de sacrements qui nous donnent certainement la grâce sanctifiante, est-ce que nous en profitons pour être plus généreux, pour servir et aimer notre Seigneur, alors que nous avons tous ces moyens plus faciles à notre disposition? Un jour, nous arriverons au soir de notre vie, la mort, le jugement, ce moment où l'intendant donne le salaire mérité par le travail. Ce soir de la vie peut d'ailleurs arriver dès le matin, ou à la troisième, ou à la neuvième heure. Il faut toujours être prêt, on peut partir à tout âge. Des fois, un accident, imprévu. Quelle récompense, quel salaire recevrons-nous à ce moment? Ici, la parabole a de quoi surprendre. Si nous l'appliquons à la vie d'une entreprise, par exemple, cela a même de quoi choquer. Qu'est-ce qu'on penserait d'un patron qui donnerait le même salaire à ceux qui n'ont travaillé qu'une heure et à ceux qui ont travaillé dès le matin? Évidemment, cela susciterait à juste titre bien des remous dans le personnel. Mais justement, il ne faut pas vouloir interpréter absolument les paraboles à la lettre. Pour tous ceux qui ont répondu à l'appel du divin maître pour travailler à la vigne de leur âme, la récompense principale sera la même pour tous. Ce sera un denier. Sur le denier, il y avait l'image, le portrait de César. Eh bien, ce denier, cela veut dire que la récompense principale pour tous ceux qui sont sauvés, qui sont morts en état de grâce, ce sera la vision de Dieu face à face. C'est cela qui constituera l'essentiel du bonheur du ciel. Mais en un autre endroit, et il faut lire tout l'Évangile, notre Seigneur dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Saint Augustin explique que ces demeures correspondent aux divers degrés de mérite de ceux qui sont dans la vie éternelle. On distingue des demeures, dit saint Thomas d'Aquin, d'après la charité dans le ciel, qui, plus elle est parfaite, plus elle rendra le bienheureux capable de recevoir la divine clarté dont l'augmentation accroît la perfection de la vision de Dieu et donc le bonheur. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, dit saint Jean de la Croix. C'est le degré de charité qui sera dans notre âme à l'instant de notre mort qui conditionnera le degré de bonheur éternel qui sera le nôtre dans le ciel. Tout cela doit avoir des conséquences importantes pour notre conception de la vie chrétienne. Ce serait une conception très réductrice et bien peu enthousiasmante de la vie chrétienne, de la considérer surtout comme une série d'obligations à remplir pour être sauvé. Si bien sûr la vie chrétienne comporte un certain nombre d'obligations et de devoirs à accomplir, ce à quoi nous devons tendre, c'est de les accomplir par amour pour notre Seigneur. Et ces obligations, ces devoirs, c'est par amour pour nous qu'il nous les donne, dans sa sagesse, pour notre bien. En 1674, le Sacré-Cœur de Jésus apparut à sainte Marguerite Marie dans un trône de flammes, plus rayonnant que le soleil. Il était entouré d'une couronne d'épines qui signifiait les piqûres que nos péchés font à son amour, et une croix était plantée au-dessus. Le Sacré-Cœur expliqua alors à la sainte l'ardent désir qu'il avait d'être aimé des hommes et de les retirer de la voie de perdition où Satan les précipite en foule. Ce que veut notre Seigneur, c'est notre amour, c'est notre cœur. Il ne s'agit pas ici nécessairement de grands sentiments. La charité, c'est une vertu surnaturelle qui a son siège dans la volonté, non dans la sensibilité. Ce que veut notre Seigneur de chacun de nous, c'est une volonté qui lui est totalement donnée à chaque instant de nos journées. C'est de cela que dépend le degré de notre bonheur dans le ciel. Et on pourrait profiter de chaque premier jeudi ou vendredi du mois consacré au Sacré-Cœur de Jésus pour nous examiner sur l'amour que nous avons envers notre Seigneur dans nos journées. La consécration individuelle au Sacré-Cœur, pour ceux qui y sont appelés, est le couronnement de toute cette doctrine. Enfin, quand notre Seigneur ajoute que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers, cela signifie que parfois, ceux qui sont arrivés à la dernière heure dépassent les autres par la ferveur de la charité et alors ils auront une récompense plus grande. Bien sûr, il n'y aura aucun murmure ni aucune jalousie parmi les élus lorsqu'ils verront cette inégalité de récompense. Chacun saura que ce qu'il aura reçu est juste. Il en sera de même d'ailleurs de ceux qui devront aller d'abord en purgatoire et de ceux qui devront aller en enfer. Si notre Seigneur parle de ces murmures dans sa parabole, c'est pour nous maintenant, pour que nous ne méprisions pas ceux qui se convertissent plus tard, parce qu'ils nous dépasseront peut-être, parce que nous aurons, nous, manqué d'amour de notre Seigneur par rapport à eux. Alors profitons de ce temps de la Septuagésime pour rentrer en nous-mêmes, pour nous demander où est notre union de volonté avec le Sauveur dans nos journées. et pour prendre les résolutions nécessaires qui nous permettront, par les prières et pénitences du carême, de comprendre encore mieux, pendant la semaine sainte, de quel amour notre Seigneur nous a aimés et ce qu'il attend de nous en retour. Demandons cela au cours de cette messe à notre Seigneur, par l'intermédiaire de la médiatrice universelle, Notre-Dame, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.